Salut, c'est Quentin, bienvenue dans l'émission Il y en a qui bossent. Émission des artisans qui vivent de leurs mains et qui créent leur travail. Il y en a qui bossent, chaque semaine, un homme, un lieu, des produits, du savoir-faire. Bonjour, c'est Quentin Bourdi, on est dans l'émission Il y en a qui bossent. Cette semaine, nous sommes chez Monsieur Philippe Tellier, président de l'AOP des vins de Marcillac, des vins de l'Aveyron, et Nicolas Julevet, qui est président, je dis président, ouais, président de la société Le Liadou du Vallon. On est là pour parler d'un couteau. Donc d'abord ce couteau, je te demander Nicolas d'expliquer un peu quelle est son histoire. Ensuite j'irai avec Monsieur Tellier un peu la collaboration, comment ça s'est passé avec le vigneron. Voilà, je t'écoute.
Mais ce couteau, c'est donc le Liadou, c'est le couteau emblématique des vignerons de Marcillac. C'est un très vieux couteau aveyronnais qui a à peu près le même âge que le couteau de l'Aïole et qui, à un moment donné, a disparu parce que les techniques de travail dans la vigne ont évolué et l'usage du couteau n'avait plus cours. Et donc ce couteau-là a disparu jusqu'à ce qu'il y a peu de temps... on s'y intéresse à nouveau.
Ça, c'est pas un couteau, c'est un outil. C'est vraiment un outil de travail plus qu'un couteau.
C'est un outil.
Ouais, le Liadou, donc, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail?
Alors, le Liadou en patois, c'est l'outil à lier. Ouais. Je pense que Philippe t'expliquera plus en détail l'usage précis de ce couteau. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un couteau de poche, puisque la lame se ferme, et c'est un couteau qui est... un outil, parce que quand on voit son manche, quand on le prend en main, quand on regarde sa lame, on voit que le manche est costaud, on a une très bonne prise en main, on voit que la lame est bien, bien épaisse, elle avait une fonction assez particulière, assez précise, et c'est vraiment assez spécifique.
Mmh. Bon, monsieur Tellier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, vous, ce que vous en pensez de ce couteau et le rapport que vous avez avec, historiquement, et plus en profondeur, je vous écoute.
Mais disons que j'ai toujours vu ce couteau-là, ici, dans les tiroirs. Je l'ai vu fonctionner, bien plus tôt, quand j'étais môme. Mon père, mon grand-père avait ce genre de couteau. C'est, comme vous le disiez, un outil de travail. Parce qu'il permet, de par sa forme et de par son envergure, de pouvoir faire certains travaux qui sont très importants avec notre cépage. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attacher la vigne. On était obligé d'attacher la vigne qui a un long bois, qu'on appelle la baguette, qu'on appelle la couronne, ça a plusieurs noms, autour d'un échalas, de façon à ce qu'elle soit recourbée. Et pour ça, on se servait d'osier qu'il fallait refendre. Et après, on faisait un nœud un peu particulier.
Et c'est-à-dire que le couteau sert à fendre l'osier.
Il sert en premier temps à fendre l'osier, à préparer les osiers. Et dans un deuxième temps, quand on va attacher la vigne quand il pleut, parce qu'il faut que le temps soit doux, ce même couteau nous permettait à finir et à nous aider à attacher cette branche entre le cep et l'échalas. Et donc il fallait une lame assez costaud pour pouvoir écarter l'osier depuis s'en servir comme un levier. Et donc ce couteau était vraiment fait pour ce travail-là. Et donc il était dans les mains et dans les poches de tous les vignerons du Vallon. Je ne crois pas qu'il y ait une maison qui n'ait pas un tiroir où il y a dedans.
Et du coup, comment ça se fait que cette technique ait disparu?
Mais il n'y a plus qu'une technique qui a disparu à un moment. Je pense que la vigne a failli disparaître complètement.
Ça, c'est autre chose.
Donc,
ça va de pair.
Ça va de pair. Faut savoir quand même qu'autrefois, les gens allaient acheter les osiers au kilo au foire de Marcillac, parce que tout le monde n'avait pas assez d'osiers pour attacher toutes les vignes qu'il y avait. Donc, il y en avait qui vendaient des osiers, donc c'était un travail quotidien de tout l'hiver de refendre ces osiers et d'aller attacher la vigne. Donc c'était un outil qui était dans toutes les mains de tous les vignerons, c'est-à-dire souvent 2-3 personnes dans une maison, quoi. Et donc beaucoup de vignes, beaucoup de couteaux, ça, il y a, ouais. C'est lié.
C'est vraiment Marcillac, quoi. C'est vraiment.
Bien, on le retrouve ici.
Ouais.
Bon, déjà, c'est pas tous les vignobles qui se servent de l'osier de cette façon-là. D'autres vignobles s'en servent. Mais pour avoir cet outil spécifique, on ne le connaît qu'ici. Ouais, c'est pas rien, quoi. Et donc, dans le vignoble, après la guerre de 14, a commencé à à dépérir et a failli disparaître. Donc, par conséquent, il n'y avait plus besoin de fabriquer des couteaux comme à une époque. Donc, il a failli disparaître à cause de ça. Et puis, en suivant, nous avons quand même fait évoluer nos techniques au niveau des vignes. Aujourd'hui, les vignes sont palissées. Et donc, les liennes ne sont plus des osiers. Et le couteau ne sert plus qu'à déjeuner.
Ouais. Dans des bonnes tables de la région. Pourquoi et comment s'est passée la résurrection de ce couteau, Nicolas ?
C'est l'histoire d'une rencontre entre Jean-Noël Rey et moi-même. Jean-Noël Rey, qui est un petit-fils de vigneron.
Qui est un grand poète. J'adore l'entendre parler.
Et qui parle très bien de son pays, qui est très attaché à son pays, qui est très impliqué, et à qui un jour sa mamie a donné le liadou de son grand-père. Et comme c'est quelqu'un qui a aussi une vie associative et qui s'occupe notamment des orgues du Vallon, pour l'anniversaire de son association, il cherchait une idée d'un beau cadeau et d'un beau symbole pour fêter cet anniversaire. Et il a pensé au liadou et il a pris contact avec moi, coutelier, pour me parler de ce produit. Et
bon, ça a été... À l'époque, tu faisais de la gueule.
Oui, j'étais effectivement à la gueule. Je suis arrivé à la gueule en 1994, donc j'ai une expérience coutelière assez importante. Et donc, un peu par hasard, il a pris contact avec moi, et ça a été le coup de foudre partagé pour ce couteau qu'on a trouvé extraordinaire et que l'on s'est attaché à essayer de faire revivre. Donc depuis maintenant pratiquement 3 ans, on a cette idée dans la tête. Et depuis quelques mois, tout ça s'est bien concrétisé.
Sans aller trop vite, comment ça s'est passé au début ? Parce que là, on est ici, donc c'est passé avec M. Tellier et tout ça. Comment la résurrection, quoi ? Comment vous l'avez organisé, ce truc ?
Alors après le coup de foudre, on a voulu aller à la rencontre des gens de notre pays, ouais. Aller à la rencontre des vignerons, aller à la rencontre des anciens, aller à la rencontre de tous ceux qui font la vie du Vallon. Donc on est allé frapper à des portes, on est allé rencontrer des anciens, l'ancien président de les chansonneries, les vignerons, les quincaillers, les gens qui le distribuaient, les gens qui en avaient entendu parler, des paysans, différentes figures du Vallon.
Qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions-là avec ces anciens ?
Des anecdotes extraordinaires,
par exemple,
de la vie du Vallon, une émotion énorme quand on entendait les anciens qui partageaient avec nous justement ces histoires, avec pas mal de nostalgie par rapport à la vie de l'époque, par rapport à la manière dont se passaient les choses. Ça nous a vraiment émus, et puis un engouement important, c'est-à-dire que notre démarche de faire revivre un couteau du pays, un couteau lié à la vigne, au vigneron, a été extrêmement bien perçu, et on a eu un soutien important très rapidement, notamment de la part des vignerons, puis d'autres figures du Vallon, comme des cuisiniers, comme
Cédric Gaston qui a dit que
c'est... Cédric Gaston à l'auberge de la Die, Julien Boscus aussi, ouais. Qui travaille à Paris au restaurant Les Climats, ouais. Et tout le monde s'est enthousiasmé pour ce projet, donc ça nous a motivé et on y est allé à fond.
C'est vrai que quand on voit moi j'ai vu depuis que j'ai sur les tables du restaurant, c'est un couteau qui interpelle beaucoup plus qu'un couteau comme couteau de la gueule, parce que la gueule, on en voit beaucoup et partout, même s'il y en a des beaux, des racés, que c'est en train d'essayer de se renouveler et tout ça. C'est un couteau qui interpelle énormément les clients. Alors, vous, qu'est-ce que personnellement, tutelier, qu'est-ce que vous avez pensé de la manière dont ça a été refait ? Est-ce que vous retrouvez bien les traceurs du liadou ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Franchement, les courbes du couteau ont été respectées telles qu'elles étaient. Ça, c'est sûr. On le regarde. Sa tenue en main, elle est. Puisque j'ai attaché la vigne comme ça, beaucoup. Ouais. Et je me suis installé, j'ai pris des vieilles vignes et j'ai placé
pas. Il y a combien de temps ?
C'était en 84.
D'accord.
Donc pendant les 10 premières années, ouais, tout l'hiver, j'ai quand même attaché quelques souches. Et donc, On sent bien dans la main quand on l'a que c'est le couteau qu'il faut, quoi. Il n'y a pas de souci.
Ouais.
Et au-delà de ça, bien sûr, c'est un sacré symbole. C'est quand même quelque chose qui nous relie un peu tous, parce que comme je vous dis, hein, c'est un outil qui appartient au vallon, quoi.
Ouais. Ouais, c'est sûr que ça fait revivre quelque chose de magnifique, quoi.
Concrètement, on a, à l'occasion justement des différentes visites et des différentes personnes que l'on a vues, il y a une personne qui s'appelle Monsieur Salès, qui a été toujours très impliqué dans le Vallon, qui est l'ancien président de l'échansonnerie, et qui est allé chercher au fond d'un tiroir un vieux liadou qui nous a confié et qui nous a autorisé à démonter de manière à ce qu'on puisse partir sur de nouvelles bases, voir comment il était monté.
C'était son liadou.
Et c'était son liadou.
Quel cadeau.
La symbolique est forte. Et tout ça, c'est...
Et donc ce liadou, ça a servi de matrice de...
Alors, on a effectivement démonté le couteau pour voir très précisément les différentes formes des platines, de la lame, du ressort, les différents axes, et de manière à concevoir un prototype qui était le plus fidèle possible, puisqu'on voulait vraiment le refaire à l'identique de ce qu'il était. Et ce cadeau de Monsieur Salès nous a permis de le faire.
C'est sur le manche là que sur ce couteau on voit la trace de l'osier. À force d'avoir travaillé, d'avoir, il y a une espèce d'encoche qui s'est fait avec l'osier. Alors ça, c'est génial.
Ben oui, parce que quand on attache la vigne, il faut serrer quand même, hein,
ouais,
pour que ça tienne. Et donc, quand il se serre, le couteau vient vous donner beaucoup plus de prise de l'osier. L'osier est fin.
Vous prenez l'osier entre la main et le couteau.
Et le couteau. C'est un peu comme un poing américain pour que ça tape mieux, quoi.
Ouais.
Sauf que là, c'est pour tendre. D'accord. C'est pour tendre et avoir beaucoup plus de force. Parce que si vous prenez l'osier à main nue, il va glisser.
Oui.
Il ne faut pas oublier que souvent...
Ça a abîmé le petit doigt.
Et en plus, quand on attache, il pleut souvent ou il bruine. Dans les mains sont mouillées, tout est mouillé. Donc, il vous glisse à la main, l'osier.
Ouais.
Grâce au manche conséquent de ce couteau, ça permet de bien le tenir, de pouvoir tirer.
Il accroche un peu.
Voilà. Et à force de le faire, ce mouvement, toujours au même endroit, il se crée une sorte de cicatrice sur le... Sur la corne du couteau.
Ouais, mais sur la corne que dans la main, quoi.
Parce qu'à l'origine, le liadou était en corne. Aujourd'hui, ouais, c'est un couteau qui permet de retrouver différentes variétés de matériaux sur le manche. Et notamment, par exemple, on utilise du bois de foudre.
C'est-à-dire le bois de foudre.
De grandes barriques. Et le charme de cette matière, c'est que ce sont des barriques qui viennent de Marcillac. Et notamment celle que l'on utilise actuellement.
Circuit court.
C'est la barrique, c'est le foudre que l'on trouve dans la cave de Jean-Noël Rey, dans la maison familiale. Donc encore une histoire fantastique. Donc du chêne, on travaille aussi des bois de pays comme du genévrier, du buis, et bien entendu de la corne, notamment de la pointe de corne, parce que c'est la partie pointue de la corne qui est la plus qualitative, alors qu'à l'époque, le liadou était réalisé dans la partie basse de corne. C'est une corne qui se détériore un peu plus rapidement, qui est plus sensible à l'humidité. Là, on utilise de la pointe de corne, parce qu'elle est plus solide et elle est en même temps plus belle. Voilà. Et on ne s'interdit pas, on peut utiliser d'autres matériaux, comme de l'os, par exemple, ou de différentes choses qui permettent de donner... une noblesse un petit peu différente ou un caractère un petit peu différent au produit.
N'empêche que vous vous accordez pas, moi je sais quand j'ai parlé avec tous les deux, avec Jean-Noël et toi, c'est que vous accordez pas, vous voulez vraiment pas le dénaturer non plus. C'est-à-dire que moi j'ai voulu faire le malin en disant, vous pourriez faire ça, vous faites, ouh là, attends, le liadou c'est un liadou, il faut que ça ressemble à un liadou. Donc quand même, il y a quand même un côté, un traceur, même si vous changez le manche. Comment vous avez décidé où vous arrêtiez dans cette résurrection là, que je dis, voilà, vous avez pris le liadou original que vous avez démonté, vous avez refait un objet un petit peu plus moderne, même s'il est racé, il y a quand même une esthétique très moderne. Vous êtes arrêté là, c'est venu comment la recherche?
Alors c'est la force de ce couteau, comme tu l'as dit, c'est un couteau qui a un certain âge aujourd'hui et qui a été conçu pour une fonction et pour un travail. Les gens qui ne le connaissent pas le trouve design. Combien de de gens, combien de clients j'ai pu voir dont la réaction face à ce couteau, on dit mais quel est le designer qui a dessiné ce couteau? Ben non, c'est pas ça, c'est un outil, et comme tout bon outil, il est adapté à son usage, et comme l'usage est spécifique, ben ça a conféré la noblesse et la forme à ce couteau, et on a une chance inouïe, c'est qu'il est beau.
Ouais, il est super beau. Mais c'est pas de la chance quand même. Il y a eu de la chance. Vous avez fait attention qu'il soit beau.
Alors, on fait attention à ce qu'il soit beau. Et on fait attention aussi à ce qu'il soit bien fabriqué. C'est-à-dire qu'on s'attache à la qualité du produit par rapport à l'utilisation des matériaux, que ce soit le métal de la lame, que ce soit les matériaux du manche et que ce soit le montage. Donc aujourd'hui, le Liadou, il est entièrement fabriqué à la main et il est entièrement fabriqué en Aveyron. Alors, on est aujourd'hui sur le Liadou original, qui est un couteau de poche, qui servait à l'époque à travailler, mais qui sert aussi à casser la croûte. Notamment, on peut s'en servir pour cuisiner. Donc c'est vraiment un couteau de poche par excellence, qui n'a rien à envier.
Ouais, ça sert à couteau d'office, et j'ai tourné des pommes de terre avec, que ça marche vachement bien.
Ben écoute, je ne te le fais pas dire, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on peut cuisiner avec plaisir et avec efficacité. Donc on s'attache à faire ce couteau-là avec la lame fermante. Par contre, on s'autorise à créer de nouveaux produits, comme par exemple donc le couteau de table, qui a une lame fixe, et on a encore quelques idées.
Limonadier, un nouveau bouteille peut-être.
Quelques idées dans les cartons, mais notre volonté, c'est de rester vraiment extrêmement fidèle à l'origine et de décliner de nouveaux produits, mais en restant dans le ton et en restant dans la fidélité au produit et à l'esprit.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? Enfin, ça, j'ai déjà posé cette question, mais qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez revu ce couteau, monsieur Tellier? Quand ils vous l'ont amené à Abouti, là, parce qu'en fait, là, on est dans le magnifique bureau qui donne une super vue sur les vignes ensoleillées, en plus, aujourd'hui, on se régale. Et on a un couteau, là, devant nous, et bon, c'est vrai que moi, j'arrête pas de le regarder. Qu'est-ce que ça vous a fait quand ils vous l'ont amené, la première impression que vous avez eue?
Ben, qu'ils avaient réussi et qu'ils avaient vraiment retrouvé la forme du couteau. La fonction initiale ne reviendra pas, je pense pas complètement, bien qu'aujourd'hui il y a des gens qui veulent faire des paniers ou autre, c'est un outil qui
ça marcherait pour en refaire là par exemple
et pour fendre. Si j'avais un osier là, je vous montrerai. C'est quand même reviendra, intéressant. Et donc voilà, c'était j'aurais dit c'est bien les gars. C'est très bien, ouais. et puis fallait que quelqu'un le fasse, ils l'ont fait. Ouais. Parce que nous, vous savez, on fait du vin et on n'a pas le temps des fois de penser à tout. Voilà. Et donc, et puis autrefois, c'était pas les vignerons qui faisaient le couteau. Ils allaient voir le quincailler à l'époque du coin et ils lui disaient, mais il faudra un couteau pour l'hiver prochain. Et c'était lui qui s'est débrouillé.
Nicolas, on arrive un petit peu au bout de notre entrevue. Est-ce qu'on peut expliquer où et comment on peut se procurer ces couteaux? Un petit peu quels vont être les projets là, à court terme et à long terme de la vie du Liadou.
Alors le Liadou aujourd'hui, on peut le trouver bien entendu chez les vignerons, dans le vallon de Marcillac. On peut le trouver aussi chez des revendeurs qui sont des professionnels et qui sont des gens que je connais depuis longtemps et qui ont attendu de voir comment ça se passait avec ce couteau et qui, dès qu'ils ont su que ça avait démarré, nous ont suivis. Donc c'est une chance pour nous. Donc ce couteau-là, on l'a dans un réseau traditionnel. On a aussi un site de vente en ligne et on a la chance aussi d'avoir des clients même à l'étranger.
Comme tu peux donner l'adresse du site.
Le site c'est le-liadou.com. Et on développe aussi nos ventes à l'international. Il y a des pays comme l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse où les gens sont très friands et très passionnés par les couteaux de poche et ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, notre projet, c'est de relocaliser intégralement et la distribution du produit et la fabrication. Ça, donc, on est en train de travailler sur ça. Il va y avoir, dans les prochaines semaines, des avancées assez sensibles. Et le Liadou du Vallon sera vraiment sanctuarisé par les vignerons dans le Vallon et sera aussi fabriqué et distribué du Vallon.
Grande classe. Super. Bon, merci beaucoup, messieurs. À une prochaine fois.
Et merci à vous.
Merci à toi.
Merci. Chaque semaine, un homme, un lieu, des produits et du savoir-faire. Il y en a qui bossent. Émission des artisans qui vivent de leurs mains et qui créent leur travail.
On a besoin de temps pour décompresser et souffler. Oublier que tous les jours il faut lutter, ne pas couler, au moins flotter, au mieux naviguer. Tenter de garder le cap sans s'avirer, on peut échouer. Et là vaut mieux savoir ramer pour gagner la terre ferme. Attention, une fois qu'il y est, c'était un lapin, les chasseurs faut éviter. T'es ambitieux, traîne pas trop devant la télé. Si tu reviens de vacances, c'est que t'es un peu trop bronzé. Oublie pas tes fap avant d'aller te balader. Sois pas trop blasé. Allez, seuls les stones sont distribués. Ça manque jamais de volontaires pour te coller du tartin gommé. Mais faut rêver, y croire et s'accrocher et persister. Se battre et transpirer et cogiter. Déménager, s'activer. Respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme allié, on peut faire ce qu'on veut si elle n'est pas au rendez-vous. On se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux. Pas trop rancune ni nerveux pour ne pas être game over au premier niveau du jeu. Yo-Jano, c'est pas le moment de yo-yoter. Ça vient de commencer, c'est ça aussi d'être né égo et en liberté. S'il y a moyen de bouger, j'en profiterai. Je me disais ça après cette réflexion. Café Club, c'est le petit déj des champions. J'ai de l'ambition, mais pas comme Napoléon. Je suis pas un colon, j'écris que des chansons. L'eau, elle s'en file, le frisson est le plus loin possible. Je veux enjamber l'horizon, mais je suis un peu comme Antoine. Il faut que je fasse un tube avant. Ma mère m'a dit, à Nice, tu deviens un peu encombrant. Je lui ai dit, ok, je me tire, mais je me rase la boule avance. Tu m'as dit que la vie valait le coup, alors j'y crois maintenant. Mais j'ai noté dans mes carnets qu'on en bave régulièrement. Comme on a tous des coups de blues de temps en temps, mais c'est normal. C'est la tension qui chute ou la pression qui monte, va savoir, Jano. Mais il faut rêver, y croire et s'accrocher et persister. Se battre et transpirer et cogiter. Déménager, s'activer. Respirer un bon coup et puis foncer avec la confiance. Comme allié, on peut faire ce qu'on veut si elle n'est pas au rendez-vous. On se démerde comme on peut, mieux vaut être teigneux. Pas trop rancune et ni nerveux pour ne pas être top budget au premier niveau du jeu.